Serge Brussolo, La prisonnière du ciel. Chapitre 1er. Le corps de la jeune femme tourbillonnait sur lui-même de plus en plus vite. Au début, la pression de l'air avait contribué à maintenir les bras plaqués le long des flancs. Mais, au fur et à mesure que s'amplifiaient les secousses, les membres s'étaient écartés du tronc. La vitesse de la chute avait malaxé les chairs, comme un sculpteur s'obstinant à torturer une figurine de glaise. Quand les turbulences brisèrent les articulations, bras et jambes commencèrent à s'agiter de façon grotesque, adoptant des postures qui allaient à l'encontre des lois naturelles. À cette altitude, le froid était tel que la victime ne tarda pas à se couvrir de givre. Son visage disparut sous un masque de glace qui enveloppa ses cheveux longs. Devenues aussi cassantes que des vers, les mèches blondes se brisèrent au ras du crâne. Entre-temps, le frottement de l'air l'avait dépouillée de ses vêtements, si bien qu'elle traversa les nuages dans un état de totale nudité. N'étant plus protégée par les couches de tissu dont elle était encore vêtue au début de sa chute, sa peau fut dès lors offerte au processus d'abrasion, qui eut au fait de mettre à vif les parties du corps les plus vulnérables. C'est ainsi que son cuir chevelu, la peau de ses épaules, s'émietta aussi facilement qu'on ôte celle d'une pomme de terre bouillie. À 26 000 pieds, poursuivant son interminable descente, elle faillit percuter le cockpit d'un avion de ligne et passa, ombre furtive, devant le nez de l'appareil, plongeant le commandant de bord dans l'incrédulité. Alors que le pilote luttait pour reprendre ses esprits, la jeune femme se trouvait déjà à la verticale de Tokyo. Elle avait cessé de tourbillonner pour adopter, bien malgré elle, la position classique du plongeur de compétition. Il lui fallut très peu de temps pour traverser la couche de smog enveloppant la cité et se rapprocher de l'hôtel Ichiban Excelsior. Le toit du bâtiment comportait une piscine recouverte d'un dôme chauffé permettant aux clients de se baigner en plein hiver, alors même que la neige tapissait la ville. L'inconnu venu du ciel percuta le dôme de plein fouet à son sommet, le faisant exploser aussi aisément qu'une coquille d'œuf. Avant que les nageurs aient réalisé ce qui se passait, elle tomba dans la piscine. À cet instant, elle avait accumulé une telle quantité d'énergie cinétique que la masse d'eau ne put constituer un matelas élastique suffisant pour l'arrêter. Aussi heurta-t-elle le fond du bassin avec tant de violence que la mosaïque s'émietta et qu'une crevasse s'ouvrit dans la maçonnerie. 30 secondes plus tard, l'eau s'engouffra par cette filure, et la piscine entreprit de se vider directement dans les chambres du dernier étage. Pris sous cette cataracte, 3 clients périrent noyés. Le vent hivernal qui s'engouffrait dans le dôme fracassé faisait geler les perles d'eau sur les épaules des jolies baigneuses. La panique était à son comble. La plupart des nageurs, croyant à un séisme, s'était rué en costume de bain vers les escaliers de secours, la procédure interdisant en cas de tremblement de terre d'utiliser les ascenseurs. Les employés de la sécurité eurent du mal à rétablir l'ordre. Ce n'est qu'une fois les baigneuses hystériques évacuées qu'on remarqua la présence de la femme tombée du ciel, dont le corps était à présent incrusté dans la mosaïque au fond du bassin. Lorsqu'elle avait percuté le dôme, des éclats de polycarbonate lui avaient sectionné le ventre aussi proprement qu'un caténa. Et, ainsi couchée dans son sang, elle avait l'air d'une geisha qui vient de se faire ses puku. Les agents de sécurité descendirent dans la piscine pour s'assurer qu'elle était bien morte, ce dont personne ne doutait. Quand l'un d'eux essaya de la toucher, il s'aperçut qu'elle n'avait plus aucun os entier dans le corps, l'impact ayant pulvérisé son squelette. On n'osa pas la retourner, de peur que sa peau ne se déchire, laissant échapper ses organes, ce qui aurait pu impressionner les clients massés au bord du bassin. La police ne tarda pas à investir les lieux. Le commissaire, après avoir échangé un coup d'œil au dôme, grogna « Une parachutiste, elle a sauté d'un avion. J'ai déjà vu ça. Un type qui s'était mal harnaché. Ses sangles ont sauté et il a perdu son parachute lorsqu'il s'est ouvert. Il a continué à tomber, mais tout seul. On l'a ramassé à la pelle. Il avait explosé comme une pastèque en touchant le sol. » Après s'être penché sur le corps, il ajouta : elle est moins abîmée que lui. Grâce à la piscine, l'eau a joué le rôle d'amortisseur. Néanmoins, la plupart des policiers détournèrent la tête quand les hommes de la médecine légale entreprirent de charger le corps sur une civière. Le body bag zippé, on évacua l'hôtel aussi vite que possible. Il neigeait. Sitôt arrivé dans les locaux de la police, le commissaire se fit servir du thé brûlant par une office lady aux allures de petite souris. Il était en train d'ordonner à ses adjoints de collecter les plans de vol de toutes les écoles de parachutisme des environs quand un homme en blouse blanche, l'air égaré, fit irruption dans le bureau. Sans même prendre le temps de s'incliner, il se rua vers le commissaire, les yeux écarquillés, la bouche tremblante. « Là, la fille tombée du ciel, balbutia-t-il, elle est vivante. » On se récria. « Allons, c'était impossible. » Il déraisonnait. Le commissaire, s'appliquant à ne rien perdre de son flegme, lui emboîta le pas en direction de la salle d'autopsie. Quand il franchit le seuil de la pièce carrelée de blanc, il aperçut le docteur Osaka, un praticien fort expérimenté, figé au bout de la table d'examen inoxydable, un scalpel à la main. La lame tremblait entre ses doigts. Le corps, effroyablement mutilé, reposait sur le dos. Privé de l'armature du squelette, il avait davantage l'allure d'un grand sac que d'un être humain. Mais ce sac avait encore des yeux, une bouche. Ce sac gémissait. Le premier adjoint du commissaire vomit dans l'un des éviers métalliques alignés contre le mur du fond. « Elle est en vie ?» bredouilla le docteur Osaka. « C'est physiologiquement impossible, je le sais, mais elle est encore vivante. » Le commissaire s'approcha de la table de dissection. À ce moment, la jeune femme fracassée ouvrit les yeux et il reçut le choc de ce regard comme une gifle. « Elle ne peut plus parler, » souffla le médecin. « Ses mâchoires sont brisées et sa langue a été sectionnée par ses propres dents. » Le commissaire sentit une goutte de sueur rouler sur sa tempe. « Que pouvez-vous faire ? » s'enquit-il. « Rien, » dit Osaka en baissant la tête. « Je n'ai jamais vu ça, c'est invraisemblable. Personne ne peut survivre dans un tel état. Ce n'est plus une femme, c'est un pot de marmelade. » Le commissaire serait dit choqué. « Je dois en référer à ma hiérarchie, » fit-il en s'inclinant sèchement. « Surveillez-la. Prévenez-moi si elle dit quelque chose. » Il quitta la salle, en essayant de ne pas marcher trop vite pour ne pas avoir l'air de prendre la fuite. Sitôt de retour dans son bureau, il mit ses adjoints dehors, ferma sa porte et se connecta sur une ligne sécurisée. Quand la communication fut établie, au terme d'un long processus d'identification, il prononça un mot codé, un seul « Quoi, Idan ?» puis raccrocha. À minuit, la femme tombée du ciel vivait toujours. Le docteur Osaka se sentait devenir fou quand une équipe munie d'autorisation officielle se présenta pour prendre livraison du corps. Outre une bande de jeunes gens surarmés, en costume ninja, elle comprenait deux hommes âgés, un russe et un très vieux japonais au visage couturé de rides profondes. Si le docteur Osaka avait été dans le secret des dieux, il aurait su qu'il avait en face de lui Evgeny Vassiliev Koncharov et Ijasan, les principaux responsables de la division Hit and Run du Destroy. Une heure plus tard, l'inconnu tombé du ciel était chargé à bord d'un jet privé à destination des États-Unis.